quoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah,
la radio Pulse.
Bien, bien,
la
bien.
La radio
bien.
Qui vous nique les oreilles.
Bien, 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 bien.
Bienvenue dans C'est de la locale, il est 18h et nous sommes en direct jusqu'à 19h. Au programme, c'est comme d'habitude, des actus, de la musique, deux interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Insta, Discord, Facebook. Et n'hésitez pas à commenter les statuts pour gagner les albums à gagner de la semaine. Et ce soir, comme d'habitude, je suis avec Rémi.
Coucou.
Et tout de suite, on commence avec la Ferraro.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Et le premier album à gagner de cette semaine, c'est Bat Carré du groupe Oshun, sorti le 12 février 2021 sous le label 18h48. Oshun, signifiant chaman en yakout, est un projet porté par le compositeur et musicien Guillaume Chartin. Passionné d'ethnomusicologie, c'est avant tout l'envie de raconter des voyages vécus ou fantasmés qui a motivé la création de ce projet. Poussé par une quête d'absolu, Oshun questionne les frontières, les cultures et les styles musicaux afin de développer un projet artistique singulier faisant la part belle au mouvement et à l'itinérance. Oshun est autant influencé par les producteurs de musique électronique tels que Rone, Ti Lacine, Bonobo ou Nicolas Jarre que par les éditions ethnomusicologiques de Sima, Arom, d'Alan Lomax et de Label Okara. Le voyage n'est bien sûr pas une fin en soi, il est un outil nous permettant d'aller à la rencontre de l'autre et de soi-même. Très belle citation. Initié à la pratique du field recording, Guillaume Chartin a choisi pour son premier album de réaliser un voyage de création à l'île de la Réunion où il a grandi afin de mixer les sons enregistrés aux quatre coins de l'île de la Réunion, des instruments traditionnels réunionnais, du monde et des sonorités électroniques. Résolument actuel, le projet Oshun propose une musique électronique organique porté par le concept d'altérité et du multiculturalisme. De retour en métropole, Guillaume Chartin entame une résidence artistique à Carical, à Port-Louis, en Bretagne. Aujourd'hui accompagné par la CMAC de l'Hydrophone à Lorient, il a réalisé un crowdfunding dont l'objectif était de l'aider à finir de produire son album au studio La Raffinerie Sonore et de collecter des fonds pour l'association SOS Méditerranée. L'album sortira sur le label parisien est sorti du coup sur le label parisien 18h48 et tout de suite c'est son titre Tout Monde.
Mmh.
Et voilà, c'était le titre Tout le monde du groupe Ojoon. Et si vous voulez le gagner, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, les publications ou à nous envoyer des messages sur Instagram. Juste après, tout de suite, on va écouter l'interview d'un groupe très local. C'est le groupe Tulou, un groupe français originaire de la campagne sartoise. On vous laisse tout de suite avec leurs interviews. Le groupe Tulou s'est formé en 95, si je ne me trompe pas.
Plutôt 97, mais 96-97. Ça dépend des articles de presse, mais en réalité, ouais. Bon, bon, c'est pas très important. Hein. Ça commence à faire un bout de temps, quoi.
Bah oui, justement, je voulais vous demander comment le groupe a évolué depuis toutes ces années.
Comment il a évolué bah, y a eu quelques changements de personnel. Mmh. Notamment, le poste qui a le plus bougé, c'est la batterie. Je crois qu'on on a dû avoir 5 batteurs différents.
D'accord.
Après, le bassiste d'origine, il n'est pas resté très longtemps. Mmh. Notamment parce qu'il n'aimait pas du tout la scène. Ça le rendait malade de monter sur scène. Il a arrêté pour ça et assez rapidement, il a été remplacé par Eric Doboga, qui est toujours le bassiste actuel. En fait, Thierry Plouze, le guitariste, moi et Eric, on est là depuis le début.
D'accord. Et du coup, pourquoi s'être appelé Tulou ?
Eh bien, c'est le lieu où habite Thierry Plouze, l'autre guitariste du groupe. Et donc, c'est le nom d'un lieu dit, hein, c'est une ancienne ferme, un Dolon. Et c'est là qu'on a enregistré notre premier album. Et l'album était fait, mais on n'avait pas de nom de groupe.
Okay.
Et je me souviens que c'est le bassiste de l'époque, Stéphane Gonnet, qui a suggéré Tulou, puis on a trouvé ça super, parce que c'était...
D'accord.
Un peu poétique.
Donc c'est...
Ouais.
C'est le lieu de l'enregistrement du premier album. En fait.
Exactement, ouais.
D'accord.
Et je me souviens aussi que c'est l'époque où Portiched avait sorti son premier album et c'est le même principe. Portiched, c'est le nom d'un lieu d'où il venait et je trouvais ça chouette de s'identifier à l'endroit d'où on venait, quoi.
C'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, pour parler des choses un peu plus récentes, comment s'est passé l'enregistrement et la composition de votre dernier album qui se nomme La peau des arbres, sorti le 5 février ?
Eh ben, la composition, c'est un peu toujours le même principe parce que c'est moi qui compose en fait. J'écris les textes et les musiques chez moi.
D'accord.
Souvent dans ma cuisine parce que j'ai une belle vue sur le jardin. Mais. C'est un détail, hein, mais bon, je compose en guitare-voix, quoi.
Mmh. Donc pour tous les albums, c'est vous qui composez ?
Ouais. Mmh. Alors depuis quelques années, j'alterne, je fais un Tulou ou un sous mon nom, Xavier Plumard.
Mmh.
Mais parce que ça me permet de travailler avec d'autres musiciens. Ça porte mon nom, mais je suis pas tout seul sur les disques, bien sûr. Mais quand je commence à avoir 7-8 morceaux de près, j'entrevois la possibilité de faire un disque, et ben... Je convoque mes copains et puis on répète. Mais après, je fais pas de direction artistique du tout. Chacun joue ce qu'il veut. Je joue les morceaux, guitare-voix, et puis les choses se mettent en place naturellement comme ça.
D'accord.
Ensuite, on discute ensemble. Ou des fois, ça fonctionne tout de suite. Ça dépend des morceaux. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Alors, on cherche ensemble quelle direction prendre, quels arrangements apporter. Mais c'est vraiment un travail collectif ensuite, le travail d'arrangement.
Comment vous s'est déroulé le clip, parce que vous avez fait un clip pour le titre Mayol. Comment s'est déroulé le clip et comment l'idée est venue, etc.
Moi qui ai proposé à Léo Doboga, donc c'est le réalisateur du clip, c'est le fils d'Eric. Donc Eric, c'est le bassiste. Du coup. Et on avait déjà eu l'occasion de faire 2-3 petits trucs avec lui, comme ça, pour le plaisir. Il se trouve qu'il a une formation de reporter animalier.
D'accord.
Il a fait une école qui s'appelle l'école de Minigout dans la région centre. Et moi, j'avais vu ses travaux d'école, un film qu'il avait dû faire. Et j'ai trouvé ça très joli, c'était très poétique, sa manière de filmer. Mmh. Donc, on lui a proposé, on lui a donné carte blanche, en fait. Et ensuite, lui, il a quand même écouté la chanson. Et dans le texte, il a assez rapidement entendu, compris que je parlais d'un renard au début, dans le premier couplet, et c'est... C'est vrai,
oui, d'où
c'est
les très imagé,
mais lui, il a entendu que... Ouais. Mmh. Et puis après, pour le reste de l'histoire et du clip, il s'est inspiré d'une fable africaine, je ne sais plus de quel pays, mais qui dit que, en gros, l'arbre symbolise nos racines, l'endroit d'où on vient, et ce qui nous a constitué, et que dans cet arbre, l'homme découvre rapidement qu'il va falloir tailler la pirogue. C'est-à-dire que la pirogue, elle, symbolise notre aspiration à s'éloigner de nos racines et à aller voir plus loin, découvrir le monde. D'accord. Mais que le paradoxe, c'est que pour faire la pirogue, il faut tailler l'arbre. Mmh. Donc, voilà, c'est une espèce d'allégorie de notre contradiction à vouloir aller voir ailleurs et en même temps rester proche de ses racines. Mmh. Ça, c'est l'inspiration de départ. Ensuite, il en a fait sa propre interprétation.
Et ça a rendu un très joli clip.
Ouais, les images sont très belles. Ouais. On était très contents du résultat.
Mmh. Et moi, je me demandais pourquoi sur cet album, vous avez chanté en français et en anglais, il me semble.
Oui, alors en anglais, à part le morceau au milieu d'album, il y a une reprise de Nina Simone, Black is the Color. Ça, je voulais le faire parce qu'il y a longtemps qu'on le joue sur scène. Et ça me tenait à cœur de le mettre sur un disque.
D'accord.
Et je trouvais que c'était le bon moment parce que c'est une vieille chanson hein, qui date de 69, mais qui n'a malheureusement rien perdu de son actualité parce que c'est un texte à double sens. C'est une déclaration d'amour à une femme noire, donc ça décrit la beauté de sa peau et de sa négritude. Mmh. Et en même temps, c'est toute une revendication sur le droit des Noirs. Et je trouvais qu'avec le mouvement Black Lives Matter, qui fait du bruit depuis 2 ans, là, c'était bien de la mettre enfin sur un disque. Quoi.
D'accord. C'est vrai que vous faites beaucoup de reprises en général. Dans les albums, il y a une reprise.
Oui, c'est pas systématique, mais presque, ouais. J'aime bien parce que c'est une manière de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et qui, moi, m'ont donné envie de faire de la musique, en tout cas. Mmh. Enfin, je dis ceux qui m'ont précédé, c'est pas systématique. Des fois, c'est des contemporains. Je me souviens, sur un album sous mon nom, j'avais fait une reprise de Richard Rollet. Il doit avoir à peu près mon âge, ce gars-là. Et pour les deux autres textes en anglais, en fait, ils ne sont pas de moi, c'est de mon ami Alain Bouvier, qui est un poète qui vit à La Ferté-Bernard et qui... Je ne sais pas pourquoi, il écrit en français, mais sur ces deux textes-là, il les a fait traduire en anglais et il tenait à ce que ce soit chanté en anglais.
D'accord.
Donc j'ai respecté son choix.
Et en parlant des reprises, je voudrais parler un peu de l'album spécial Musette.
Oui.
Déjà, pourquoi avoir voulu faire un album spécial Musette? Et moi, c'est la pochette qui m'intrigue, donc je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Et il y en a qui disent que c'est dans le thème. Moi, je trouve que ça... J'ai peut-être pas l'image, la bonne image de la Musette, mais je trouve que la pochette est assez... On va dire que la femme qui est dessus, c'est assez contradictoire avec la Musette, mais juste de mon impression. Après, je ne sais pas si c'est pas ça ou pas.
Alors pourquoi le faire? C'est parce qu'en fait, c'était une musique qu'on a l'habitude de jouer, on ne le fait plus maintenant, mais dans notre village, parce que moi j'habite le même village que Thierry, le guitariste, et dans notre village il y a un super lieu qui s'appelle le musée de la musique mécanique, qu'il faut absolument visiter, c'est un super endroit. Et donc le dimanche soir, ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller jouer là-bas pour animer les fins de soirée au bar. Mmh. Et évidemment, on n'allait pas jouer des morceaux de Toulouse qui sont un peu plombants et qui, enfin, c'est pas vraiment fait pour faire danser ou égayer l'ambiance. Et donc, on jouait des morceaux que tout le monde connaissait, quoi, et qui sont un peu dans la culture du lieu, quoi. Mmh. Par ailleurs, moi, je considère que c'est notre folk à nous.
Oui.
On encense toujours le folk américain, mais le folk français, c'est cette musique-là, le Musette.
C'est vrai,
oui. Et j'avais envie... également de faire entendre les textes, parce que les textes sont incroyables, je trouve, de toutes ces chansons. Et donc j'en viens à la pochette. Dans bien des chansons, alors c'est pas toutes, hein, mais quand même deux tiers des chansons, je pense, parlent de la manière dont on traite, et surtout dont on maltraitait les femmes.
Oui.
Alors on pourrait en parler au présent, en fait, ce sont des vieilles chansons. Mais je crois que
toujours d'actualité.
Évolue, mais bon... très lentement. Et donc, et c'est assez terrible, par exemple, la chanson Rikita, tout le monde connaît le refrain, tout le monde reprend ça en chœur à la fin des repas. Et en réalité, ça raconte l'histoire d'une fille qu'on va chercher mineure à Java pour en faire une pute à Paris et qui finit par se suicider. Et donc voilà la pochette. Parce que la pochette, en fait, c'est la muse de toutes ces femmes chantées dans les chansons Musette qui vient pour régler ses comptes.
D'accord.
C'est pour ça qu'elle porte un fusil aussi.
Ok, oui.
Et aussi, c'était une manière de... Évidemment, elle a un look un peu plus moderne que ce qu'on peut associer à ce genre de chanson. C'était une manière de dire que les propos qui étaient énoncés là-dedans étaient toujours d'actualité, en fait.
D'accord, je comprends tout le sens de la pochette maintenant. Et on va parler aussi des choses qui fâchent du coup d'actualité maintenant. La crise sanitaire du Covid-19, comment elle vous a impacté?
Bah, comme tout le monde, on n'a plus de boulot.
Est-ce que l'album, il était en composition, le Covid était déjà là ou vous avez commencé avant? Est-ce
qu'il était terminé, mais il aurait dû sortir au mois de mars ou au mois d'avril, juste quand le premier confinement a commencé. C'est pour ça qu'il sort que maintenant, c'est parce qu'en fait, les distributeurs se sont trouvés à devoir bloquer toutes les sorties. Et il y a eu tout un wagon de disques qui devaient sortir. Et à chaque fois qu'il y avait un déconfinement, une fenêtre qui s'ouvrait, bah, ils en sortaient un petit peu. Et nous, bah, on faisait partie de la file d'attente. Et d'accord. À un moment donné, ils nous ont dit, bah, là, on peut y aller. On a dit, ok, tant pis, on y va.
Okay, ça va.
Même si ce n'est pas les conditions idéales pour sortir un disque, il faut continuer à faire les choses quand même. Il ne faut pas que tout s'arrête. Donc,
oui, il n'y a pas trop le choix.
Ouais. Et puis, bah, nous, même moralement pour nous, ça nous fait quand même une actualité, quelque chose auquel se raccrocher. Parce que sinon, c'est le néant, quoi.
Même s'il n'y a pas de concert possible, le fait de sortir un disque, je trouve que c'est bien. Il faut continuer de sortir de la musique, ça fait toujours plaisir.
Ben, ouais. Alors, on va essayer, pour pallier au manque de concerts, à la fin du mois, on va être en résidence à la Salle Athéna de la Ferté-Bernard et on va tâcher de filmer un concert qu'on pourra mettre en ligne pour accompagner la sortie.
Oh, ça, c'est trop bien. Mais après, c'est pas pareil sans public, mais
non, c'est pas pareil. Et puis même, enfin moi, en tant que spectateur, c'est bien hein, toutes ces alternatives qui sont proposées. Regarder un concert sur un écran, mais c'est pas la même chose que d'être dans une salle.
Ah non, c'est pas du tout pareil, mais c'est le seul moyen qui nous reste maintenant.
C'est ça, voilà. C'est un moyen d'essayer de garder un lien avec notre public aussi.
Oui, c'est ça. Et j'aimerais savoir comment vous définissez votre style musical, parce que je trouve que chaque album, au final, est quand même assez différent. Et surtout certains morceaux.
Ouais, c'est vrai, c'est bien de le remarquer parce que en général on catalogue ou chansons françaises ou folk rock et c'est vrai qu'il y a de ça dedans, hein. Je chante en français, il y a une vraie inspiration folk qu'on peut pas renier, mais on essaie en effet d'aller voir un peu d'autres territoires, quoi. On écoute, alors comme j'expliquais tout à l'heure, comme il n'y a pas de direction artistique, bah, on est influencé par les influences de chaque membre de groupe. Mais je sais qu'en ce qui me concerne, et le batteur Alex aussi, on écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique contemporaine, plein de musique un peu étrange qui sortent des formats classiques. Et donc, on essaie de mettre un petit peu de ça dans notre musique.
J'allais justement vous demander si vous avez 2-3 noms de groupes ou d'artistes qui étaient de vos influences.
Ouais, il y en a tellement.
Oui, c'est pas facile de choisir.
Surtout avec mon âge avançant, ça, de plus en plus, mais bref. Pour moi, il y a un artiste qui est une référence absolue pour moi, c'est Marcolis. Marcolis, c'était le leader de Tok Tok. Et les deux derniers albums de Tok Tok et l'unique album solo de Marcolis sous son nom, pour moi, c'est vraiment une espèce de ligne de mire, de point de repère, un truc inatteliable, chef d'œuvre absolu pour moi.
D'accord.
Et qui, je sais, m'influence. De m'influence, j'essaie pas de refaire ça ou de copier ce que ce mec a pu faire, mais je sais que oui, c'est un point de repère pour moi. Après, il y en a plein d'autres. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup marqué par Neil Young ou Leonard Cohen, Lou Reed. Mais aujourd'hui, on écoute tellement de choses. Et puis j'ai des enfants qui écoutent beaucoup de musique aussi. J'ai une fille qu'on écoute énormément et qui a des super goûts, je trouve. Donc elle me fait découvrir plein de choses.
C'est trop bien, faut s'ouvrir à toutes les musiques.
Ouais. Et bon, alors après, elle est un peu, comment dire, elle aime bien tout ce qui est le mouvement Revival Soul des années 70, mais qui se refait aujourd'hui vachement bien, comme peut faire Michael Kiwanuka. Là, elle vient de me faire découvrir une fille qui s'appelle Céleste. Ouais. Enfin bref, voilà, ça s'arrête jamais, il y en a trop de trucs.
Oui, il y en a beaucoup trop. C'est ça qui est bien dans la musique, c'est qu'on peut toujours découvrir. Ouais. Du coup, je disais qu'il y avait des morceaux qui me paraissaient très différents, par exemple sur l'album qui s'appelle Peña. Il y a un morceau qui s'appelle Aucun signe.
Ouais.
Et je trouve que comparé à tous les autres morceaux, il est très différent le chant est pas pareil, c'est plus un peu
C'est normal,
slam.
C'est pas moi qui chante.
Voilà, c'est très
un slammer qui était invité, ouais. qui s'appelle Rom Lito. Mm-hmm. Mais peut-être tu connais pas ce disque, mais on en a fait un autre où j'avais composé exprès pour ce slammer. Il s'appelle Le Goût du Bonbon.
Ah, je l'ai vu, mais c'est pas un que j'ai beaucoup écouté.
Alors, si t'aimes bien le flow de ce slammer, je te conseille cet album-là parce qu'il chante la moitié des morceaux avec moi.
Ça va.
Mais, mais j'étais fan de son écriture et de son interprétation. Mais je suis content sur le dernier disque, il y a un très chouette duo. Justement, la voix féminine de l'album, c'est Astrid. Et j'étais content qu'elle accepte de faire le duo de morceaux de Nina Simone avec moi.
D'accord. Et justement, en parlant de collaboration, est-ce qu'il y a une collaboration avec n'importe quel artiste ? Genre, si tout était possible, vous choisiriez qui ?
Ou bien Marcolis, dont je parlais tout à l'heure, mais il est mort.
Non,
il n'y a pas longtemps.
J'ai dit si tout était possible.
Et sinon, j'adorerais composer pour Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead, qui est une voix qui, moi, me bouleverse à chaque fois. C'est un de mes fantasmes, c'est de faire un album qui s'appellerait « Tu louves » au lieu de « Tu loues ». Où on ferait comme d'habitude, je compose des chansons et une fois qu'elles sont prêtes, ce serait une interprète féminine différente pour chaque chanson qu'on inviterait.
Mais c'est un projet qui peut se faire.
Oui, il faut toujours garder ses rêves en tête. Ouais. Mais il y a longtemps que j'ai ça en tête. Donc il y aurait Bess Gibbons d'invité, il y aurait G. Harvey. Il y aurait des gens moins connus parmi mes amis qui ont des voix magnifiques que j'invite sur les disques régulièrement. Voilà. Graziella De Michel, qui était une fille qui chantait en français. On n'entend plus du tout, j'aimais bien cette fille. Bref, voilà. Peut-être ça, on le fera un jour.
Peut-être. Si je dis pas de bêtises, mais il me semble que sur certains albums, il y a des chansons qui sont cachées, qui sont pas écrites sur le disque, mais qui sont dedans.
Sur des plus vieux, C'était une espèce de mode qui se faisait à l'époque, dans les années 90 et le début des années 2000, C'était des morceaux fantômes.
Oui, c'est ça.
Donc on s'est amusé à faire ça, mais on a arrêté.
Oui, c'est plus d'actualité. Je crois que c'est La Belle Inutile que j'ai le plus écouté.
J'aime beaucoup le son de celui-là parce qu'il a été enregistré dans un riad à Marrakech. Un riad, c'est des grandes maisons traditionnelles avec une cour à ciel ouvert dans la vieille ville. Et on entend les oiseaux.
Du coup, tu as fait 3 albums, toi, de ton côté, tout seul ?
4 même. Il y en a un qui s'appelle Fulbert, qui est encore plus ancien. C'était pas sous mon nom, ça s'appelait Fulbert.
Okay.
Et puis sinon, j'en ai fait 3 sous mon nom,
Du coup, comment tu fais pour... En fait, est-ce que c'est ta manière d'écrire pour Tulou ou pour toi tout seul est différente ou comment ça...
Non, les papas, c'est la même chose en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis toujours en train de penser à une chanson. J'écris pas une chanson tous les jours, mais tous les jours, je travaille une idée ou un truc, ou une musique ou un bout de texte. Et puis quand j'ai suffisamment de chansons en stock pour faire un disque, j'envisage de faire le disque. C'est depuis 2009, je crois, donc ça va faire 10 ans, j'alterne. Je fais un Tulou, un Xavier Plumin.
Ok, mais comment...
Mais la composition, elle est pas faite en pensant que ça va être un Tulou ou un Xavier Plumin.
Comment tu dis, je vais la mettre dans Tulou ou pas ?
Tu vois, par exemple, on vient de sortir un Tulou. Mm-hmm. Alors, pendant le confinement, j'en ai composé un autre album.
Okay.
C'est-à-dire, j'ai le stock, j'ai une dizaine de chansons de prêtes pour faire un disque. Et comme on vient de faire un Tulou, je sais que ça sera sans doute un Xavier Plumin.
Ok, ça marche.
Mais bon, il n'y a pas de règle absolue, c'est pas une discipline de moine. Et si jamais les gars me disent, allez, on en refait un, qui sont motivés, peut-être que ce sera un nouveau un Tulou.
Ok, ça marche. Et est-ce que du coup, il y a quand même des projets pour 2021 et 2022 ?
Bah oui, de cet album-là dont je t'ai parlé, qu'il faut que j'enregistre. Et puis, j'espère qu'on va à un moment donné réussir à refaire des concerts. Quoi.
Ça serait pas mal. Ça serait bien, ça commence à nous manquer.
Bah oui, carrément, ouais. Mais de toute façon, on est tous un peu dans la même expectative, à attendre de savoir. À mon avis, avant la rentrée prochaine de septembre, il ne va pas se passer grand-chose. Je doute qu'il y ait beaucoup de choses qui se débloquent.
Voilà, c'était l'interview de Tulou. Tout de suite, on va vous laisser avec le titre qui se nomme Large Ciel, sorti de l'album qui se nomme La Peau des Arbres, sorti le 5 février 2021.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien, 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 bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi, je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est l'esthésite.
Oh !
Faut arrêter l'esthésite.
Ah !
La Radio Pulse.
Bien, bien, bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien, 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 bien.
Et voilà, c'était le titre Large Ciel, sorti de du dernier album de Tulu qui se nomme La Peau des Arbres. Tout de suite, on va écouter le titre qui se nomme Under Road's Mind de Wild Fox, sorti de l'album sorti le 29 janvier 2021 qui se nomme Night Has Come. Tout de suite, on écoute le titre.
I guess the age of time, the age of time. And you'll be mine. Around, around the town, I drop some crowns. And you'll be mine.
Et voilà, c'était le titre de Wild Walks. Tout de suite, on va vous laisser avec l'interview de Mayora Léa qui nous vient de Nouméa et qui nous a parlé de son nouvel album qui va sortir très bientôt. Donc votre album est sorti en décembre. Et comment s'est déroulée la sortie de l'album ?
Bah écoutez, la sortie de l'album, elle s'est déroulée un peu bizarrement parce qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on a eu pas mal de problèmes en fait. Des blocages avec la population suite à l'usine de nickel ici. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les journaux. Voilà, et du coup, en fait, il y a eu des manifestations dans les rues, des blocages, et ça s'est passé exactement la même semaine de la sortie de mon album. Il devait y avoir un concert, et du coup, ça a été annulé. Donc ça fait que j'ai sorti mon album sur les plateformes et j'ai pas fait le concert live malheureusement, et du coup le concert il a lieu la semaine prochaine.
D'accord. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'une question de c'est reporté, c'est pas
ouais. Oui, voilà, c'est reporté, mais sinon ça a été bien accueilli ici sur les plateformes et puis les chansons passent à la radio ici localement, donc ça c'est super cool.
Mais c'est le principal. Pourquoi avoir appelé l'album Warrior?
J'ai appelé l'album Warrior parce qu'en fait, faire partie de cette industrie dans la musique, dans l'art, moi je travaille aussi dans le théâtre et tout ça, il faut vraiment être une battante pour pouvoir réaliser ses rêves et continuer, parce que voilà, des fois on a l'impression qu'on a envie de tout arrêter, mais il faut continuer. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Warrior en fait, parce que je cherchais un nom et je me suis dit, je vais prendre. Une des chansons de mon album, et celle-là, pour moi, c'était la bonne.
J'allais justement vous demander, être une femme dans le monde artistique, dans le monde du reggae, est-ce que c'est facile en 2021 ?
Non, c'est pas facile, non. Déjà, c'est pas facile de toute façon d'être artiste, du tout. Donc, c'est vrai que... Après, dans le monde du reggae, je sais pas trop, parce que je viens juste de sortir mon album, donc ça sera à voir, mais de toute façon, c'est pas facile d'être une femme dans le milieu artistique, de toute façon, que ce soit dans le reggae, dans le cinéma, dans la pop, voilà.
Donc vous avez grandi en Nouvelle-Zélande, il me semble.
J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande, en fait. J'ai fait 13 ans, je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande à l'âge de 13 ans.
Okay.
Donc avant ça, j'étais en Nouvelle-Calédonie.
Vous êtes venu plusieurs fois sur la métropole française. Si oui, quelles sont les grandes différences ?
Les grandes différences ? Je dirais les gens déjà. Les gens, c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'en métropole, les gens sont un peu plus stressés déjà. Parce que voilà, on est dans la grande ville, c'est pas pareil. Et dans les îles, tout le monde est un peu plus cool. On se prend moins la tête, on prend plus le temps de faire les choses en fait. C'est vrai que après, on peut être un peu stressé aussi des fois, mais c'est vrai que non, il y a quand même un mode de vie beaucoup plus cool. Les gens se prennent moins la tête, on prend plus le temps de faire les choses. Et puis aussi, quand on est dans les grandes villes, j'ai habité à Paris pendant 4 ans, on est tout le temps. Autour de beaucoup de monde, de beaucoup de choses, on voit des magasins partout, donc c'est vrai que l'atmosphère est différente aussi, on a envie d'aller voir partout, de dépenser, de faire ci, de faire ça, mais après c'est super aussi, il y a tellement de choses à faire, parce que bon, c'est vrai qu'ici aussi, mais c'est différent, il y a plus de culture en France, on va dire ici, c'est surtout, comme vous dites, c'est les plages paradisiaques, c'est différent.
Moi, je voulais vous demander comment la crise sanitaire mondiale du Covid-19 vous affecte à Nouméa. Est-ce que c'est pareil qu'en France? La situation est-elle complètement différente?
Eh bien, écoutez, alors complètement différente, effectivement, parce que nous, en fait, on n'a pas du tout de Covid. Donc, on n'a pas. On ne sait pas ce que c'est de porter un masque, quoi, en fait.
Ah, c'est un mot qui fait rêver, ça.
Tout le monde dans le monde est avec leur masque et tout ça, et nous. On vit complètement normalement. C'est juste qu'en fait, on a nos frontières fermées depuis mars, donc on ne peut pas sortir de notre île.
Ok. Ça, c'est plutôt pas mal.
On se sent très chanceux de pouvoir continuer à vivre normalement.
On espère retrouver ce calme dans les prochains mois.
Oui,
on l'espère.
Vous dites que vous allez faire un concert la semaine prochaine.
Ça fait un an qu'on n'a pas fait.
Non, mais j'arrive même pas à imaginer en fait la situation dans laquelle vous êtes, parce que ça me. C'est dingue, quoi. C'est complètement dingue ce qui se passe dans le monde. Dépasse-moi.
Oui, c'est bien. En tout cas, profitez bien du concert la semaine prochaine.
Aussi, sur votre esthétique, on voit que vous avez de la peinture, vous mettez de la peinture sur le visage. Est-ce que c'est juste de l'esthétique ou est-ce qu'il y a une signification derrière ?
C'est un peu des deux, en fait. Du coup, j'ai voulu créer un personnage sur scène et un visuel fort. Et la peinture blanche, elle est venue avec ma maquilleuse, Karine, qui habite ici en Nouvelle-Calédonie aussi. Et c'est elle qui a eu cette idée. Et je l'ai trouvée top parce qu'en fait, bon, c'est vrai que... ici, dans les îles, les Kanaks aussi, la peinture blanche, c'est très tribal. Mmh. Pas que en Nouvelle-Calédonie, mais je veux dire dans plein de cultures. Et du coup, pour moi, ça représentait aussi le fait d'être de Nouvelle-Calédonie, d'avoir cette petite touche tribale et puis un peu cette femme guerrière. Voilà, le côté encore warrior, le côté un peu esprit, un peu chaman, parce que tout ça, ça m'attire. Donc, c'est un peu un mélange de tout. À la base, moi, je voulais vraiment que Mayura, ce soit un peu la femme pan, la femme oiseau. Mmh. Et finalement, on a aussi rajouté de la peinture blanche.
J'ai remarqué vos boucles d'oreilles en plumes. Il est important pour vous de passer un message en tant qu'artiste ?
Oui, complètement. C'est essayer de donner de l'amour aux gens, de la joie et puis de se libérer aussi, surtout. Parce que quand on va à un concert, quand on écoute de la musique, on a cette sensation de liberté, je pense, qu'on n'a pas tout le temps. Et la musique et les paroles, ça a beaucoup de pouvoir sur nous. Donc ce qu'on écoute, je pense que c'est important. Et j'essaye de faire passer des messages dans la musique. Voilà, pas juste chanter comme ça, sans rien dire.
Justement, vous pensez que vos auditeurs, enfin, ils écoutent dans quelles conditions vous souhaitez que les gens écoutent votre musique ? En voiture, en repas, en soirée, en marchant, à la plage ?
Franchement, partout. Peu importe, parce que je trouve que dans la voiture, il y a quelques chansons sur l'album où je me dis « Ouais, ça c'est une bonne chanson pour être dans la voiture quand on part comme ça, sur une grande route, on va faire de la route et on sait qu'on va écouter de la musique. » Après, sur une plage aussi, parce que bon, y a le côté reggae qui est voilà, assez chill, donc du coup on a envie d'écouter ça. Et puis après, peut-être pas passer en boîte de nuit, je pense, mais sans... sinon oui en soi aussi je sais qu'il y a plusieurs personnes de mes amis ou des connaissances d'amis qui ont mis mes chansons en soirée donc je pense que ça peut un peu passer partout.
D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la création de votre clip musical du morceau Mavahaf?
Oui, alors la création du clip. Écoutez, en fait, le truc, c'est qu'il fallait que je fasse un clip sans budget. Donc, j'ai choisi la chanson Mother Earth, déjà parce que c'est une de mes chansons préférées sur l'album. Et j'avais l'impression qu'elle me représentait vraiment bien en tant qu'artiste. Et aussi, quand j'ai eu le visuel dans la tête, je me suis dit, ce clip-là, il va être facile à réaliser sans trop de budget. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson comme single. Et puis après... j'ai écouté la chanson, je me suis mis le scénario dans la tête parce qu'en fait, cette chanson, je l'ai écrite quand moi, j'étais à Paris et que je travaillais en tant que serveuse et hôtesse parce que je faisais des petits boulots comme ça, voilà, pour survivre, on va dire. Et j'en avais vraiment marre, ça me saoulait. Et du coup, j'ai écrit cette chanson et en fait, c'était un peu, encore une fois, une espèce de libération... parce que j'étais pas vraiment à ma place, je me sentais pas à ma place, il fallait que j'écrive cette chanson. Et du coup, dans le clip, en fait, c'est ça, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un boulot alimentaire et elle aime pas vraiment ce qu'elle fait. Et à l'intérieur, il y a un peu la petite voix qui lui dit de tout lâcher pour aller faire ce qu'elle aime et être vraiment qui elle est. En gros, c'était ça l'idée.
D'accord. Et la composition de l'album, comment elle s'est déroulée ?
La composition des chansons, en fait... J'ai été en Nouvelle-Zélande, après je suis allée à Paris pendant 4 ans et quand je me suis retrouvée à Paris toute seule, on va dire, c'est là que j'ai écrit pas mal de chansons. Et après je suis rentrée en Nouvelle-Zélande, retournée à Paris et là je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait j'avais beaucoup de chansons dans ma valise et il fallait que je trouve la personne avec qui le faire. Et en fait j'ai un ami à moi, enfin que je connais depuis que je suis toute petite, Gino, le producteur et l'ingénieur du son et enfin celui qui a fait toute la production de l'album. On s'est retrouvés et du coup il a écouté mes compos qui étaient en petite maquette et il a dit mais c'est top ce que tu fais. Et moi j'ai écouté ce qu'il avait fait et j'aimais beaucoup parce qu'il avait fait les premiers albums de Marcus Gadd, je sais pas si vous connaissez.
Si du nom.
Et puis du coup, on s'est parti de là, en fait. On a commencé l'album, ça nous a pris 2 ans, et voilà.
D'accord. Un album qui...
Mais la plupart des chansons étaient déjà écrites depuis un moment. Mmh. La seule chanson que j'ai écrite en Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est Plastic Storm, la chanson qui est avec Marcus Gadd sur l'album, justement.
D'accord. Et c'est quoi vos influences et inspirations musicales?
Mes influences, c'est vraiment les groupes de reggae, Bob Marley déjà, ça c'est sûr, Bob Marley et Amy Winehouse,
j'adore.
Mes deux plus grosses influences. Donc ça c'est mes chouchous, okay. C'est vraiment, je les ai beaucoup écoutés, mais après il y a aussi les groupes néo-zélandais de reggae, genre Fat Freddy's Drop, Salmonella Dub, je sais pas si vous connaissez tous ces groupes, Catch a Fire, c'est des groupes qui envoient vraiment du lourd.
D'accord.
Donc voilà, après j'ai des influences, j'aime beaucoup de styles de musique différents parce que comme j'ai fait beaucoup de danse depuis que j'étais jeune, donc j'écoutais beaucoup de pop aussi. Donc quand j'étais jeune, genre, j'avais 14 ans, j'écoutais Britney Spears et Mariah Carey et Céline Dion, quoi.
Ok.
Qui a rien à voir avec ce que je fais maintenant.
Oui, mais il faut écouter de tout.
Et est-ce qu'il y a une collaboration ou un featuring que vous aimeriez faire, la collaboration de vos rêves? Vous pouvez choisir n'importe quel artiste pour faire une collab.
Bah ils sont plus là.
C'est pas grave, dans nos rêves.
Non, mais si je devais choisir des artistes, je choisirais Fat Freddy's Drop, justement, ce groupe néo-zélandais.
Et voilà, c'était l'interview de Mayora Léa, qui nous vient de Nouméa. On va tout de suite écouter son titre qui se nomme Mother Earth, qui est le single de son album.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ses bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est l'esthéticide.
Oh,
faut arrêter l'esthéticide.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
People.
Et voilà, c'était le titre Motherhurst de Mayura Lea.
Nickel. Bon, est-ce que ce serait pas le temps pour une toute petite chronique ?
Peut-être.
Tu sais de quoi je veux vous parler ?
Non, dis-moi tout.
Bah hier, c'était quoi ? C'était le 14 février. C'est quoi le 14 février ?
La Saint-Patrick.
Non, ça c'est autre chose.
Je ne sais pas.
C'était la Saint-Valentin. Et pour ceux qui me disent, oui, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Écoutez, je suis célibataire, laissez-moi tranquille, déjà, pour commencer.
C'est commercial.
Et puis, je vous dirais aussi qu'à la base, la Saint-Valentin découle de plusieurs choses, plusieurs histoires que je m'en vais vous conter. Les Romains fêtaient les Lupercales du 13 au 15 février, voilà, qui était une fête de purification, symbole de partage, où on sacrifiait un bouc dans une grotte. Tu le sens l'amour là ou pas ?
Ouais, sympa, ouais.
Pour symboliser la fertilité, quoi de mieux pour symboliser l'amour que la fertilité, bien évidemment. Et apparemment, le premier Valentin serait un prêtre catholique nommé Valentin, du coup, ça me paraît logique, qui décida de se marier en secret les amoureux, donc quand même bon gars. Et il fut découvert et envoyé en prison jusqu'à sa mort. Pour certains, le martyr Saint-Valentin fut décapité en 269 à Rome.
Très joyeux tout ça.
Bon bah écoute, on voit que la Saint-Valentin est bien partie avec du sacrifice de bouc, du sacrifice de prêtres catholiques. Mais cela dit, il y a toujours une petite histoire assez sympathique que je m'en vais vous conter, qui est un peu amoureux sur les bords. Donc c'est l'histoire de Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint-Valentin, qui est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur, oui, tout à fait, Claude II le Gothique, a.k.a. Marilyn Manson. À l'époque, l'empereur Marilyn Manson voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leur fiancée plutôt que de partir à la guerre. Tu m'étonnes. Et du coup, Valentin, il dit « Eh, mais c'est quand même de la merde. » Du coup, il fait des mariages en scred et tout ça, il s'organise, il passe des petites PS5 et tout ça, des petites chèvres à sacrifier dans les grottes et tout ça, entre les couples, jusqu'à ce que Valentin se fait découvrir. Du coup, il va en prison et la fille de son geôlier est une fille qui s'appelle Julia, qui est une fille aveugle. Et Valentin tombe amoureux de Julia et lui raconte tout ce qui se passe autour de ses propres yeux. C'est beau, ça, quand même. Mmh. C'est un beau message d'amour. Donc, il y a ça d'un côté et de l'autre, c'est un mec qui se fait décapiter, pareil pour des chefs dans des grottes. Tu vois, je sais pas trop quoi faire de cette fête-là.
Je trouve que c'est pas très, très...
On vous laissera juger hein, de toute
mais
façon.
C'est intéressant de savoir des choses sur l'histoire de la Saint-Valentin.
Sondage, si vous avez fêté votre Saint-Valentin et que vous nous écoutez, envoyez-nous par Instagram, si jamais vous avez Instagram, ça fait beaucoup de conditions. Si vous avez fêté votre Saint-Valentin avec quelqu'un, vous nous envoyez « J'aime bien manger des pâtes ». Si vous avez fêté votre Saint-Valentin seul, vous répondez « Perso, je préfère les chèvres ». Et puis après, on fera un petit ratio. Et on verra demain. Et si personne répond, bah, il n'y aura pas de ratio demain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant pis. Hein.
Et si vous avez une anecdote pourrie de Saint-Valentin,
ou une anecdote
la pire gagne un album.
Ou bien la pire anecdote de date, si jamais...
Ouais, mais de date de Saint-Valentin, restons dans le thème.
Très bien. Est-ce que tu en as une, toi, que tu voudrais nous partager,
Non, et toi ?
Ouf. Peut-être sur une autre émission.
Peut-être sur une autre émission. En tout cas, si vous voulez gagner l'album, donc soit vous nous racontez une pire histoire de Saint-Valentin, ou alors vous nous envoyez tout simplement un message en disant « Ouais, je veux l'album de l'affaire Rock et tout, c'est trop bien. Envoyez-le-moi, je veux
bien
gagner. »
Ou vous m'envoyez en DM Insta « J'aime les pâtes ».
Non. Mais qui n'aime pas les pâtes ? Autre débat.
Autre jour, il est 59, il est temps de dire au revoir à nos très chers auditeurs.
Exactement. Bonne soirée et à demain.
Et à demain. Salut. In the eye, don't try to fool me with your fucking lies. Ooh, baby, watch your pocket cringe. Ooh, baby, 'cause I can't scream. You can't keep me in your arms. I'm all life and kind of hard. Oh, did you ever fall this down? Ooh, baby, I will run. I can't wait for you.
Station de commande, ici ST321, entrée en code bleu. Nous commençons notre approche désactivée, le champ de sécurité.
Le Trafalgar.
Surtout le matin avant le café, ça agace.
On baisse pas par le pantalon devant les petits chefs.
Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.
Le Trafalgar.
Et allez, s'accélère et je vous emmène à la verticale. Allez, les bancs, les bancs,
Eh oui. Bienvenue à la fête foraine du Trafalgar. C'est parti.